Donc, bonjour à tous, bonjour Christophe. J'ai préparé une petite introduction très courte pour lancer la journée, pour lancer nos débats. Et donc, je vais vous la lire. En préparant cette rencontre professionnelle sur le rôle stratégique des bibliothèques dans l'appropriation du numérique, je ne sais pas pourquoi il y a le titre d'une pièce de théâtre d'Oscar Wilde qui m'est revenu à l'esprit comme un leitmotiv pour qualifier les bibliothécaires que nous sommes. Le titre de cette pièce, c'est « L'important d'être constant ». En effet, en préparant cette journée, j'ai été impressionné par la quantité et la qualité de la bibliographie sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. À l'époque de la transition numérique, nos questionnements sur notre rôle et nos missions sont réactivés à la puissance 10, pourrions-nous dire, avec une tendance parfois seulement, à la flagellation. Je ne vais pas être long, mais pour présenter nos travaux d'ici et maintenant, je voudrais simplement vous lire un extrait d'un petit livre qui vient de sortir et que vous pouvez vous procurer gratuitement sur le web ou dans votre librairie préférée. Vous l'avez peut-être déjà lu, je ne vous dirai le nom de l'auteur qu'après. Je cite. J'ai eu de la chance. J'ai disposé en grandissant d'une excellente bibliothèque locale. J'avais le genre de parents que je pouvais persuader de me déposer à la bibliothèque quand ils partaient au travail, pendant les vacances d'été. Et le genre de bibliothécaire qui n'avait aucune objection à ce qu'un petit garçon, non accompagné, revienne chaque matin dans la section enfants, exploiter systématiquement le catalogue sur fiche, en quête de livres qui contenaient des fantômes, de la magie ou des fusées, en quête de vampires, de détectives, de sorcières ou de merveilles. Et quand j'ai eu fini de lire la section enfants, j'ai attaqué les livres pour adultes. C'était de bons bibliothécaires. Ils aimaient les livres et aimaient qu'on en lise. Ils m'ont appris à commander des livres à d'autres bibliothèques, par prêt entre bibliothèques. Ils n'avaient aucun snobisme, quoi que je puisse lire. Ils semblaient simplement contents de voir un petit garçon aux yeux écarquillés qui adorait lire, et ils me parlaient des livres que je lisais, me trouver d'autres livres d'une même série, m'aider. Ils me traitaient comme n'importe quel lecteur, ni plus ni moins, ce qui signifie qu'ils me traitaient avec respect. Je n'avais pas l'habitude d'être traité avec respect quand j'avais 8 ans. Mais les bibliothèques sont une affaire de liberté. Liberté de lire, liberté d'idées, liberté de communication. C'est une affaire d'éducation, ce qui n'est pas un processus qui prend fin le jour où nous quittons l'école ou l'université. De distraction, de création d'espaces protégés, d'accès à l'information. Je m'inquiète de voir qu'ici, au XXIe siècle, c'est l'auteur qui parle, les gens ne comprennent pas la nature d'une bibliothèque et son rôle. Si vous ne voyez en une bibliothèque que des étagères de livres, elle peut vous paraître vieillie ou dépassée dans un monde où la plupart des livres, mais pas tous, existent sous forme numérique. Mais ce serait passer fondamentalement à côté de son rôle. Je pense qu'il est lié à la nature de l'information. L'information a une valeur, et l'information correcte a une énorme valeur. Tout au long de l'histoire humaine, nous avons vécu sous le règne de la pénurie d'informations. Il était toujours important de posséder l'information nécessaire, et elle avait toujours de la valeur. À quel moment planter les semences, où trouver les choses, les cartes, les chroniques et les comptes. Tout cela valait bien un repas et de la compagnie. L'information était une commodité précieuse, et ceux qui la possédaient ou savaient comment l'obtenir pouvaient faire payer ce service. Au cours de ces dernières années, nous sommes passés d'une économie pauvre en information à une autre, mue par une pléthore d'informations. Selon Eric Schmidt de Google, la race humaine, c'est Eric Schmidt qui parle, crée désormais autant d'informations tous les deux jours que nous l'avions fait entre l'aube de la civilisation et 2003. Ça représente à peu près 5 hexaoctets de données par jour pour ceux d'entre vous qui tiennent les comptes. Le défi ne revient plus à découvrir cette plante rare qui pousse dans un désert, mais à localiser une plante précise qui croît dans une jungle. Nous allons avoir besoin d'aide pour surfer sur ces informations et trouver ce dont nous avons véritablement besoin. Les bibliothèques sont des endroits où vont les gens pour trouver des informations. Les livres ne sont que le sommet de l'iceberg des données. Ils sont là et les bibliothèques peuvent vous en procurer de façon gratuite et légale. Il y a plus d'enfants que jamais qui empruntent des livres dans les bibliothèques, toutes sortes de livres, papier, numérique et audio. Mais les bibliothèques sont aussi, par exemple, des lieux où les gens qui ne disposeraient pas d'un ordinateur, qui n'auraient pas de liaison Internet peuvent aller en ligne sans rien débourser. Une énorme importance, donc, alors que les moyens de trouver des emplois, de se porter candidat à des emplois ou à des aides migrent en ligne de façon de plus en plus exclusive. Les bibliothécaires peuvent aider ces gens à surfer dans ce monde-là. Voilà, selon l'auteur de ce texte, un rappel d'une de nos missions importantes, celle de favoriser les accès aux informations, à l'information. Et si nous en doutions encore de l'importance du rôle stratégique des bibliothèques dans l'appropriation du numérique. Alors l'auteur, est-ce que vous avez lu ce livre ? Est-ce que vous savez de qui je parle ? Voilà, Neil Gaiman, il y a des gens qui ont... Voilà, donc c'est Neil Gaiman, un auteur de britannique de littérature fantasy, qui a écrit un plaidoyer l'année dernière, en 2013, lors d'une conférence pour défendre les bibliothèques publiques anglaises. Et son éditeur français, Au Diable Vauvert, propose ce petit texte que vous pouvez trouver désormais en librairie. J'aime beaucoup le titre de ce livre et le sous-titre « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination ?» Et son sous-titre, c'est « Une conférence sur le devoir de chaque citoyen d'exercer son imagination et de pourvoir à ce que les autres exercent la leur. » Pourvoir à ce que les autres exercent leur imagination va nous occuper aujourd'hui, et notamment réfléchir ensemble pour trouver les moyens d'en finir avec la fracture numérique. Il faut avoir de l'ambition. On a de la chance ce matin, parce que nous allons successivement écouter deux sociologues nous faire la recension de plusieurs études sur les appropriations du numérique. Tout d'abord, Christophe Evans, qui nous présentera les enseignements majeurs de la grande enquête européenne consacrée aux usages du numérique dans les bibliothèques publiques, puis sa collègue, Agnès Camuvig, qui, du global, passera au local pour nous présenter deux études menées sur ce qui se passe sur le terrain, et notamment dans les ateliers informatiques de la BPI. Mais avant de donner la parole à Christophe, je voudrais juste évoquer la notion d'empowerment, terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est la capacité d'un individu ou d'un groupe à se donner les moyens de prendre en charge son devenir dans un domaine ou un environnement donné. Cette prise de pouvoir, dont nous devons être les facilitateurs, et je cite Julian Rapaport, qui est professeur de psychologie américain, cette prise de conscience passe par la construction, appropriation d'un savoir en interaction avec cet environnement à partir du problème qui se pose à lui. Cela implique à la fois un effort de participation active au processus de résolution de problèmes et une mobilisation de ressources extérieures sous forme de coopération, de travail collaboratif, qui ont pour objet de créer une valeur ajoutée. L'échange ayant pour objectif l'accroissement de la capacité d'autonomie de l'individu ou du groupe concerné. Pour l'individu, il s'agit d'accroître ses habiletés afin de favoriser une augmentation significative de l'estime et de la confiance en soi. Pour le groupe, c'est un processus social d'identification puis de reconnaissance des personnes dans leur capacité à réaliser leur projet. Agnès Camuvig va beaucoup nous parler de cela tout à l'heure. L'empowerment est au cœur de la notion d'inclusion, qui renvoie bien à la dimension excluante de la société de l'information et de ses machines étranges, ainsi qu'au processus d'apprivoisement que doivent faire les non-usagers. L'éloignement des TIC résonne avec l'isolement social. Une stratégie d'aménagement du territoire numérique doit prendre en compte cette dialectique. Neil Gaiman, dans son texte, saluait les bibliothécaires parce que, notamment pour l'enfant de 8 ans qu'il était, les bibliothécaires lui donnaient accès à une chose précieuse, le respect de sa personne. Les discours, que je vais qualifier de marketing sur le numérique, ont une tendance à ne pas respecter tous les individus. N'oublions pas que dans une perspective d'inclusion, le refus d'usage ou le non-usage des TIC ne correspond pas forcément à un retard ou à un décalage par rapport à la norme des usages, mais peut-être le révélateur d'une posture particulière de l'individu ou du groupe, ou bien le signe d'un effet de mode qui ne deviendra probablement pas un usage dans le sens des pratiques socialisées. Par exemple, Second Life, qui, en comparaison de Facebook ou Wikipédia, ne rassemble finalement peu ou pratiquement plus d'adeptes. Alors Christophe, et j'ai fini, quelles sont les pratiques aujourd'hui, les usages, les demandes, les besoins de nos usagers en Europe en termes de numérique ?